France Musique. C'est l'été sur France Musique. Les uchronies musicales de Laurent Villarem.
Et si Shostakovich s'était enfui du RSS ? Nous sommes à la frontière de la Finlande et de la Russie. Il fait moins 20 degrés. D'un côté de la frontière, il y a des gardes rouges. Ils tiennent un prisonnier du goulag, un homme inquiet derrière ses petites lunettes fines. C'est Dimitri Shostakovich. Le silence se fait. On entend le vent glacial. De l'autre côté de la frontière, il y a des hommes en cravate. Ils sont frigorifiés dans leurs habits. Ce sont les services secrets britanniques. Eux aussi retiennent un homme. Lunettes rondes également, boule à zéro, mais oui, c'est Serge Prokofiev. Les deux camps se rapprochent lentement l'un de l'autre. C'est une entrevue top secrète. Les services soviétiques et britanniques se réunissent pour discuter du sort de deux compositeurs illustres. L'un souhaite rentrer au pays, Prokofiev, et l'autre partir du RSS, Shostakovich. L'échange se négocie. Bonjour Carole Beffa.
Bonjour.
Vous êtes compositeur, pianiste improvisateur. Vous avez publié notamment des livres sur Ligeti et Ravel. Nous évoquerons votre actualité en fin d'émission. Mais aujourd'hui, vous allez parler de Shostakovich. La première scène de notre uchronie musicale, c'est une histoire d'espion. Mais Carole Beffa, qu'est-ce qu'il y a de vrai ?
Qu'est-ce qu'il y a de vrai ? Alors, on va imaginer qu'il va y avoir un échange entre Shostakovich et Prokofiev. Ce qui est vrai, c'est que lorsque Lady Macbeth, qui est l'opéra dont on vient d'entendre un extrait, écrit en Union soviétique en 1934, c'est un succès incroyable. Et du jour au lendemain, la vie de Shostakovich va changer suite à un article qui paraît dans la Pravda qui s'appelle « Le chaos remplace la musique ».
Et il y a même Staline qui a été furieux.
Tout à fait. Alors, un temps, on s'est demandé si c'était pas Staline lui-même, d'ailleurs, qui avait écrit cet article, puisqu'il n'est pas signé. On pense aujourd'hui que ce n'est pas le cas. En revanche, il est fort probable qu'il l'ait influencé. Lui-même assiste à la représentation de Lady Macbeth. Malheureusement, pour Shostakovich, il se trouve dans la loge présidentielle, donc il est tout près des cuivres et des percussions.
Et du coup, il entend une sorte de raffut.
qui est pas très agréable à ses oreilles, semble-t-il. Et donc, cet article, Le chaos remplace la musique, semble-t-il, est effectivement inspiré par ce qu'il a ressenti lors de l'audition. On reproche à Shostakovich d'avoir emprunté au jazz, à la musique nerveuse, fébrile, spasmodique pour conférer la passion à ses héros, je cite l'article, et puis on lui reproche d'avoir écrit une musique grossière, primitive, vulgaire.
Bon, bah c'est tout un catalogue.
Tout un programme. Alors, ce qui va se passer, c'est que bientôt la section de Leningrad de l'Union des compositeurs se réunit en séance, et les orateurs n'ont pas de mots assez durs pour Shostakovich, il est la cible de toutes leurs attaques. Il est terrorisé. En général, comme le NKVD, c'est-à-dire l'ancêtre du KGB, vient chercher ses victimes de nuit, désormais, Shostakovich va se coucher pendant des mois, tout habillé, avec une petite valise qui est toute prête dans l'éventualité d'une arrestation. Il devient insomniaque, il reste allongé dans le noir à attendre, il s'attend au pire, il a des idées de suicide, et ces idées ne vont pas le quitter pendant les décennies suivantes.
Et de l'autre côté, Prokofiev, c'est aussi une vérité, il a souhaité revenir en URSS en 1936.
Alors oui, pourquoi est-ce que Prokofiev revient au pire moment, 1936, c'est-à-dire les purges staliniennes? D'abord, il est gagné par la nostalgie, il avait quitté l'Union soviétique en 1918. Les mélodies qu'il écrivait alors, elles étaient en langue russe. Ses mentors, Diaghilev, Koussevitzky, sont des Russes. Dès qu'il peut, il entretient une correspondance avec ses amis qui sont restés au pays, Miaskovsky, et puis le critique musical et compositeur Asafiev. À Paris, c'est plutôt la jeune musique soviétique qu'il défend en diffusant des partitions, en organisant des concerts. Et une autre raison qui est esthétique, c'est que Prokofiev est un adepte d'une nouvelle orientation esthétique qui est la nouvelle simplicité. Et il s'imagine, peut-être à tort, qu'il peut y avoir communauté d'intérêt entre cette esthétique
et le réalisme communiste.
Voilà, le réalisme socialiste. En plus, Prokofiev avait bien sûr reçu un bon accueil en Europe et aux États-Unis, mais le triomphe qu'il connaît en Union soviétique en 1927 et lors de ses tournées soviétiques en 33, 34 et 35 est sans commune mesure. Et puis, sur le plan politique...
Oui, il y a quelque chose de majeur dans la vie de Prokofiev, oui.
Mais alors, il y a une espèce de raison politique qui est que on fait à Prokofiev un chantage en 1935, lorsqu'il est en Union soviétique. On lui dit que s'il ne se décide pas à rentrer en Union soviétique, il ne pourra plus y retourner, plus jamais. Or, il a plusieurs partitions qui sont en chantier, Roméo et Juliette pour le Bolchoï, une cantate pour le 20e anniversaire de la Révolution d'octobre, des projets pour le centenaire Pouchkine en 1937, et tout ça explique que Prokofiev, littéralement, s'est jeté dans la gueule du loup.
Carole Beffa, dans notre uchronie, Shostakovich a fait du goulag, mais c'est pas vrai, n'est-ce pas?
Non, il n'a pas fait de goulag, mais il aurait pu en faire, il était à deux doigts d'en faire. Il avait certains proches parents qui avaient d'ailleurs fait le choix d'émigrer. Sa tante maternelle était partie pour l'Occident en 1923. Elle va rester longtemps en correspondance avec sa famille. Il faut savoir que la réception de lettres en provenance de l'étranger était passible de 10 ans de déportation. Des proches de Shostakovich avaient même subi la répression. Son grand-père paternel avait été déporté dans un camp. Shostakovich lui-même avait une sœur aînée, Maria, dont le frère était un physicien qui était issu d'une famille aristocratique, et il est arrêté. Elle-même, pour avoir la vie sauve, est obligée de se désolidariser de son mari. Donc tout ça fait que il est tout à fait plausible que Shostakovich ait pu faire du goulag.
Et en 1936, il a fait la symphonie numéro 5, une œuvre très ample, très majestueuse, qui a été saluée par Staline en personne. Donc il a sauvé sa tête.
Il a d'une certaine façon sauvé sa tête après quelques mois où il était dans une position extrêmement délicate. Donc est-ce que s'il avait continué dans la veine qui était celle du nez, il aurait sauvé sa tête de la même façon? C'est pas du tout certain.
On écoute l'entracte aux percussions du nez de Shostakovich, dirigé par Gennady Rojdestvensky. Incroyable entr'acte du nez de Chostakovitch par l'orchestre du Bolchoï, dirigé par Gennady Rozhdestvensky. Donc dans notre uchronie, si Chostakovitch avait gardé son insolence musicale, s'il avait composé une musique aussi féroce que le nez, donc il aurait été déporté, et c'est là où notre uchronie fonctionne, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait du goulag et les Britanniques s'en émeuvent.
Alors, oui, on peut imaginer que, d'abord, Chostakovitch essaye de faire jouer quelques relations politiques et militaires qu'il a. Il est assez proche du maréchal Toukhachevski. Malheureusement pour lui, Toukhachevski est lui-même pas vraiment en odeur de sainteté auprès de Staline. On essaye de faire en sorte, quand on est un artiste, d'avoir la protection d'un grand qui lui-même est proche du régime, mais ça peut ne pas marcher.
C'est l'été sur France Musique, les uchronies musicales de Laurent Villarème.
Carole, notre Chostakovitch est maintenant en exil en Angleterre en 1939. On poursuit le fil chronologique ?
Volontiers, ouais.
Et si Chostakovitch avait vécu la Deuxième Guerre mondiale à Londres ? Chostakovitch est en Angleterre. Hélas, la blitzkrieg de l'aviation allemande fait rage. Le compositeur russe est devenu anglais. Il n'a pas passé un test de langue. Pour un tel musicien, on a demandé un test de naturalisation originale. On l'a enfermé dans une pièce avec une feuille à musique en lui disant « Vous avez toute l'après-midi pour orchestrer la chanson Tea for Two ». Bien sûr qu'il a réussi, et en moins de 3 heures, s'il vous plaît. Maintenant qu'il est anglais, Chostakovitch veut aider son nouveau pays. Bientôt, il connaîtra Britten et Jacqueline Dupré. Mais maintenant, il écrit une nouvelle symphonie depuis Londres. Un grand chant de victoire pour l'Angleterre et ses alliés. Une symphonie Birmingham. Le début de la symphonie Leningrad de Chostakovitch par l'orchestre philharmonique de Moscou, dirigé par Kirill Kondrachine. Carole Beffa, non, Chostakovitch n'a pas écrit pour Londres, mais la véritable histoire de la symphonie numéro 7 est très romanesque aussi.
Oui, elle est digne d'un roman d'espionnage. En fait, par exemple, quand le 22 mars 1942, la symphonie est donnée à Moscou, avant que l'orchestre n'attaque le quatrième mouvement, le responsable de la défense antiaérienne prend place à côté du chef d'orchestre et il lève la main très calmement pour éviter tout le monde panique. Il annonce quand même le début d'une alerte aérienne. Mais les soviétiques sont dociles et personne ne quitte son siège. parce que ça pourrait passer pour de la couardise, pour une attitude antipatriotique. Le concert est retransmis à la radio. La symphonie va devenir le symbole de la victoire des Alliés. C'est pour ça que c'était pas aberrant d'imaginer que ce soit une symphonie
Birmingham
et pas une symphonie Leningrad. Et tous les chefs du monde entier vont vouloir en obtenir la partition. Par exemple, l'ambassadrice soviétique en Suède écoute la radio. On joue la symphonie de Shostakovich. Elle envoie un télégramme en Union soviétique. En réponse, un microfilm de la partition est acheminé en Iran. De là en Irak, puis en Égypte. Il va traverser l'Afrique. Il arrive par bateau de l'autre côté de l'Atlantique à New York. Et tous les chefs d'orchestre les plus célèbres, Toscanini, Stokowski, Koussevetsky, l'attendent avec impatience. Et des États-Unis, une copie de la partition va être acheminée à Londres. Et de là en avion jusqu'à Stockholm. L'orchestre symphonique de Göteborg la joue pour la première fois.
Karl Beffa, vous qui êtes compositeur, selon vous, si Shostakovich s'était enfui du RSS, comment son style aurait évolué ?
Alors, tout est possible. On peut penser qu'il aurait pu être influencé par ce qu'il avait entendu lors du Blitz et qu'il aurait fait de l'électroacoustique, par exemple.
Ah, super ! Stockhausen avant la lettre.
Exactement, ah, ouais. Ou du Ligeti, enfin, ce que Ligeti avait rêvé lui-même et qu'il n'a pas vraiment pu établir. On peut aussi imaginer que son insolence, le goût pour le canular et la provocation qu'on trouve dans le nez, eh bien, l'aurait rapproché de Fluxus, du dadaïsme, des courants du théâtre musical et qui serait devenu le meilleur ami de John Cage, par exemple. On peut aussi voir que dans certaines œuvres, par exemple la deuxième symphonie, après un scherzo grotesque, Shostakovich introduit une écriture fuguée à 13 voix et le fugato en fait n'est qu'un prétexte pour arriver à une extrême concentration de la facture. L'effet sonore est assez inédit. L'auditeur va entendre la dernière partie du fugato comme une tache sonore en vibration, avec une matière sonore vibrionnante. Et c'est assez proche de ce que, quelques décennies plus tard, Ligeti lui-même rêvera d'écrire avec sa notion de micro-polyphonie de musique de trame, donc dans les années 1950.
Donc selon vous, Shostakovich serait devenu une star de la musique contemporaine, du Darmstadt des années 50, avec Stockhausen, Boulez et Nono.
Ben pourquoi pas? Alors, on sait que dans la réalité...
Oui, Boulez a une phrase absolument assassine sur Shostakovich.
Voilà, il parle de la sixième pression à froid de Mahler. Mais on pourrait se dire qu'au contraire, il serait devenu l'un des compagnons de route de Darmstadt. Que ce que l'on imagine être In Memoriam Bruno Moderna, c'est-à-dire rituel en réalité...
De Boulez.
De Boulez est un rituel...
1071, ouais.
Voilà, mais il serait à la mémoire de Shostakovich. Que Messageski, ce qu'il écrit pour le grand mécène suisse, Zahar, qui est sur le nom de Zahar, serait en réalité un hommage à Shostakovich aussi, et soit sur le DSCH de Shostakovich. Enfin, tout est possible.
Vous êtes parti, Carole, ça y est, là. Alors, nous allons écouter un extrait du Requiem d'Edison Denisov, qui aurait été une sorte de compositeur soviétique passé en Europe. D'ailleurs, c'est une très belle œuvre. Carole, on poursuit notre uchronie. Donc Shostakovich s'est enfui du RSS, il vit en Europe et il est devenu la star de la musique contemporaine européenne. Et on a imaginé une dernière étape, il veut rentrer au pays.
Oui, il en a un peu assez. Darmstadt, il s'en lasse.
Vous comprenez ça, Carole Beffa?
Pourquoi pas?
Passons à autre chose.
Non, mais si vous prenez par exemple Ligeti, hein, qui lui avait effectivement vécu dans sa chair le totalitarisme nazi d'abord, puis le totalitarisme soviétique, bah, il se trouve qu'un critique musical et musicologue peu suspect de passéisme, qui est Paul Griffiths, disait qu'avec Darmstadt, il allait rencontrer un totalitarisme analogue dans son sectarisme et son intolérance. Bon, je laisse à Griffiths la paternité de ces mots. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait imaginer que fêté à l'Ouest, il s'en lasse un tout petit peu et qu'il se dise, parce que les soviétiques ont bien conscience que ce serait un coup politique fabuleux que de réussir à le faire revenir en Union soviétique, que pour son 50e anniversaire, donc en 56,
ouais.
Voilà, eh bien, il est invité à faire quantité de masterclass. Il va y avoir une intégrale de ses symphonies écrites jusqu'alors qui est donnée. Tous ses quatuors à cordes sont donnés. Bref, il est célébré, fêté, encore plus qu'il ne l'était à l'Ouest. Et surtout, il a la possibilité, désormais, avec la déstalinisation, eh ben, d'écrire un peu la musique qu'il veut. Donc, il n'est plus du tout contraint par le réalisme socialiste.
Donc, Shostakovich rentre dans son pays. Il se retire dans sa datcha en Crimée. Il est très heureux. Et pour la fin de sa vie, il termine gentiment des petites œuvres soviétiques.
Ben voilà, pourquoi pas. Alors, il pourrait se mettre à écrire effectivement des œuvres à nouveau la gloire du régime, qui n'est plus tout à fait le stalinisme, mais qui en est un décalque un peu moins virulent.
Alors on se quitte car Shostakovich a vraiment écrit deux petites cantates qui sont pas piquées des hannetons comme on dit. Donc il y a une pour le chant des forêts qui a été composée en 1949 et une autre en 52, pourtant la période est tragique, qui s'appelle « Le soleil resplendit sur notre mère patrie ». Mais on va écouter le chant des forêts par le chœur et l'orchestre d'État d'Estonie dirigé par Paavo Järvi.
Yeah.
un extrait du Chant des forêts de Chostakovitch. Merci beaucoup, Carole Beffa.
Merci à vous.
Je rappelle votre biographie de Ligeti aux éditions Fayard. Vous êtes présent au Festival du Périgord Noir le 7 août par une œuvre Vertigo pour clarinette et quatuor à cordes avec Pierre Génisson et le quatuor Hermès, mais également aux heures musicales de Cuno en Anjou le 15 août avec une œuvre Cette obscure clarté avec Rachel Sinzel au violon, Odon Girard à l'alto et Irène Jolis au violoncelle. La semaine prochaine, nous nous demanderons et si la Malibran n'était pas tombée de cheval. Les uchronies musicales, collaboration Pauline Boisaubert, prise de son et mixage Olivier Dupré, une émission réalisée par Céline Parfenoff. Et tout de suite, nous retrouvons un été avec Louis Armstrong avec Florian Royer.
À réécouter sur francemusique.fr.